Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Il est 9h à Washington. Bienvenue. Un journaliste rwandais travaillant pour des médias de son pays a été arrêté, inculpé d'espionnage. Il a été arrêté au Burundi. Faute d'accréditation, les autorités burundaises ont durci le ton contre la presse locale et étrangère depuis le début, fin avril, du mouvement de contestation contre la candidature du président Pierre Nkurunziza à un nouveau mandat. Étienne Bessa Mivumbi travaillait, selon l'agence française de presse, pour la radio Ibusa et le site iguié.com. Il a été arrêté lundi en compagnie d'un taxi moto rwandais qui le transportait dans la commune de Guitéraï. Et au Mali, le programme de gouvernement du Premier ministre Modibo Keïta, approuvé à une large majorité aux petites heures du matin, appelle aujourd'hui à Bamako. Monsieur Keïta a appelé à la cohésion nationale pour sortir de la crise et demander l'implication de tous et tous les niveaux pour accomplir cet objectif, selon l'AFP. 116 députés ont voté pour et 16 contre, ces derniers tous étant membres de l'opposition. La lutte contre Boko Haram, le nouveau président du Nigeria, Muhammadu Buhari, est déterminé à prendre la tête de la campagne contre la secte islamiste. C'est ce qui ressort du sommet des pays de la coalition anti-Boko Haram hier à Abuja. Les explications de Antoine Glaser, spécialiste des affaires africaines.
Ils veulent toujours avoir la direction, la coordination, le commandement. Et là, on voit qu'il y a une répartition des tâches, en particulier avec le Tchad, à partir du moment où l'état-major de la force régionale sera N'Djamena, mais avec un général qui sera un général nigérian. C'est une façon de se coordonner. Mais tout ça, ça se fait au niveau des chefs, en particulier des présidents, et ensuite des chefs d'état-major et autres. Mais est-ce qu'au niveau de la troupe, est-ce que ça va suivre? Ça, on ne sait absolument pas comment les choses vont se coordonner.
Les pays contributeurs avaient souhaité une force dont le commandement est tournant, mais le président nigérien est resté inflexible. Pourquoi, selon vous?
Il y a toujours eu cette attitude du Nigeria anglophone avec 180 millions d'habitants vis-à-vis des petits frères francophones. Buhari, au niveau national, dans un pays aussi nationaliste que le Nigeria, considère qu'ils n'ont pas à recevoir d'ordre, de commandement, de quoi que ce soit des pays voisins. Mais encore une fois, le fait d'avoir accepté que l'état-major soit quand même à N'Djamena, c'est aussi, à mon avis, faire un clin d'œil, ou en tout cas au Tchad, pour remercier le Tchad quand même est intervenu le premier contre Boko Haram dans la région, et puis aussi sans doute un clin d'œil à la France qui va sans doute assurer une logistique à partir de N'Djamena, puisque c'est là où l'état-major français de toute l'opération Barkhane dans le Sahel est au Tchad, et donc c'est aussi, à mon avis, le président Buhari, ça lui permettra d'avoir quand même un soutien sur le plan occidental.
Le Tchad, disons, c'est plein du manque de coordination quand le Nigeria dirige les opérations. Qu'est-ce que vous en dites?
Le Tchad, c'est toujours plein le fait qu'il n'y ait jamais eu de coordination avec le Nigeria, mais ça, c'était surtout du temps de Goodluck Jonathan. Je pense que là, ils se rendent bien compte qu'il y a quand même, sans faire de mauvais jeu de mots, il y a quand même le feu au lac. Le véritable danger, c'est vraiment toutes les îles du lac Tchad qui sont complètement incontrôlées. On a vu comment même les populations du Niger ont fui et le véritable enjeu, c'est que Boko Haram finalement s'installe au cœur du lac et à ce moment-là, il sera très difficile avec des populations parce que s'il y a le véritable enjeu économique, c'est quand même le lac Tchad pour l'ensemble des éleveurs et c'est vrai que ça échappe à tous les pays. Alors là, à ce moment-là, c'est pas simplement le Nigeria. Le Nigeria sait très bien que c'est quand même plus du côté du Tchad et le problème, ça sera vraiment le problème du Tchad et on voit pas comment même le Nigeria peut refuser au Tchad de se coordonner. En tout cas sur la lutte contre Boko Haram, là c'est vraiment son territoire.
Le journaliste Antoine Glaser qui vient de publier Africa France, quand les dirigeants africains deviennent maîtres du jeu. Sur le terrain au Nigeria, 6 villages incendiés et 37 personnes tuées par les militants de Boko Haram mercredi soir dans l'état de Borno, dans le nord-est du pays, près de la forêt de Sambisa, un bastion de la secte. Selon un responsable d'un groupe d'autodéfense, les victimes sont des paysans qui avaient regagné leur village après que l'armée nigériane eut chassé Boko Haram de la région cette année. Sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, dimanche et lundi prochain à Johannesburg, en Afrique du Sud. son thème officiel, l'armée de l'année du développement et de l'émancipation des femmes. Mais selon l'AFP, la réunion de travail devrait être dominée par des sujets d'actualité brûlants comme la crise au Burundi, la question des migrants qui risquent leur vie par milliers pour gagner l'Europe, la guerre au Soudan du Sud et les attaques des mouvements islamistes qui menacent plusieurs États depuis le Sahel jusqu'au Kenya. Les États-Unis seront représentés au sommet, entre autres par Linda Thomas-Greenfield, secrétaire d'État adjointe pour les affaires africaines. En République démocratique du Congo, poursuite des consultations en vue d'un dialogue politique, le président Joseph Kabila s'est notamment entretenu jeudi avec les ambassadeurs et les chefs de mission diplomatique accrédités en RDC, de même qu'avec des gouverneurs de province. Un coup de projecteur sur ces consultations avec Thierry Kamboudi de Top Congo FM.
En direct de Washington.
Premier à être reçu ce jeudi 11 juin 2015, les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques accrédités au Congo démocratique. Jean-Michel Dumont est le chef de la délégation de l'Union européenne en RDC.
Nous sommes en faveur du dialogue pour trouver une solution aux problèmes concrets qui se posent. Nous les connaissons, ils ont été cités. Le calendrier, le fichier, le budget. Le président nous a demandé de jouer un rôle positif et nous avons répondu que nous sommes prêts en tant qu'Union européenne à jouer un rôle positif pour des élections qui soient libres, transparentes, démocratiques, tenues selon les échéances constitutionnelles et dans un climat politique apaisé et que l'Union européenne est prête à apporter son appui au processus électoral.
Cette volonté de la communauté internationale d'accompagner le processus électoral a également été rappelée par Martin Kobler. Mais le chef de la mission de l'ONU en République démocratique du Congo souligne tout de même que certains préalables devraient être réunis.
Nous sommes tout à fait prêts d'accorder le plein soutien de la communauté internationale pour les élections. Mais c'est basé naturellement, c'est connu, sur les principes de la résolution des Nations Unies. Et ici, je veux un consensus d'effectuer les élections libres, paisibles et crédibles ici. Donner l'espace à l'opposition. La constitution devrait être respectée et aussi le calendrier électoral doit être gardé menant jusqu'au novembre 2016 les élections présidentielles et législatives. Et j'ai assuré le président du rôle positif de la MONUSCO, du rôle positif aussi de la communauté internationale en ce qui concerne les sujets qui doivent être résolus rapidement.
Ces consultations sont à ce jour toujours boudées par les principaux partis politiques et regroupements de l'opposition. Le député national Christian Badibangi, président de l'Union des socialistes congolais, en a profité pour demander au chef de l'État de fournir encore plus d'efforts afin de ramener les indécis, comme il les appelle, à la table des négociations.
Nous avons dit nous soutenons le dialogue. Nous avons demandé au chef de l'État d'élargir encore sa main pour que les indécis et les hésitants viennent au nom du Congo pour sauver notre pays.
Au gouverneur des provinces reçu par la suite, il a été demandé d'élargir ses consultations dans leurs juridictions respectives. Julien Paluku, le gouverneur du Nord Kivu, est leur porte-parole.
Le chef de l'État nous a chargé d'une mission essentielle, celle d'étendre cet exercice en province en tant que ses représentants pour que nous allions consulter toutes les couches en province.
Kinshasa, Thierry Kamboundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Les casques bleus de l'ONU, de nouveau accusés d'abus sexuels cette fois, les faits se seraient produits au Libéria et en Haïti. Morgane Guiriac.
Le rapport interne de l'ONU indique que les soldats de maintien de la paix ont échangé de l'argent ou des fournitures contre des faveurs sexuelles de la part de centaines de femmes. À Monrovia, plus d'un quart des femmes interrogées disent avoir procédé à des transactions sexuelles avec les casques bleus de l'UNMIL, et généralement pour de l'argent ou des téléphones. De même en Haïti, où des centaines de femmes ont reconnu avoir eu des relations sexuelles avec des casques bleus de la MINUSTA en échange de services ou de biens matériels tels que des chaussures, des vêtements, des téléphones, des ordinateurs portables et des parfums. Le document encore confidentiel et daté du 15 mai a été obtenu par l'AFP et doit être publié sous sa forme définitive la semaine prochaine. Ces divulgations interviennent alors que les Nations Unies ont été récemment critiquées pour leur gestion d'accusations d'agressions sexuelles contre des enfants en Centrafrique.
Yémen, l'UNESCO a condamné aujourd'hui la mort de 5 personnes et la destruction de plusieurs édifices de la vieille ville de Sanaa, inscrite au patrimoine mondial de l'humanité, dans un raid aérien de la coalition arabe menée par l'Arabie saoudite. Actualité aux États-Unis, un adolescent américain a admis hier devant un tribunal qu'il a essayé d'aider le groupe État islamique à recruter des partisans et à lever des fonds. Ali Choukri Amin, 17 ans, a plaidé coupable des accusations de complot pour fournir un soutien matériel à un groupe terroriste étranger. Merci.